Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Un parricide de Boule de Suif. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Didier. Boule de Suif de Guy de Maupassant. Un parricide. L'avocat avait plaidé la folie. Comment expliquer autrement ce crime étrange? On avait retrouvé un matin, dans les roseaux, près de Château, deux cadavres enlacés, la femme et l'homme, deux mondains connus, riches, plus tout jeunes, et mariés seulement de l'année précédente, la femme n'étant veuve que depuis 3 ans. On ne leur connaissait point d'ennemis. Ils n'avaient pas été volés. Il semblait qu'on les eût jetés de la berge dans la rivière après les avoir frappés l'un après l'autre avec une longue pointe de fer. L'enquête ne faisait rien découvrir. Les mariniers interrogés ne savaient rien. On allait abandonner l'affaire quand un jeune menuisier d'un village voisin nommé Georges Louis, dit le bourgeois, vint se constituer prisonnier. À toutes les interrogations, il ne répondait que ceci. Je connaissais l'homme depuis 2 ans, la femme depuis 6 mois. Il venait souvent me faire réparer des meubles anciens parce que je suis habile dans le métier. Et quand on lui demandait « Pourquoi les avez-vous tués ?» il répondait obstinément « Je les ai tués parce que j'ai voulu les tuer. » On en put tirer autre chose. Cet homme était un enfant naturel sans doute, mis autrefois en nourrice dans le pays, puis abandonné. Il n'avait pas d'autre nom que Georges Louis, mais comme, en grandissant, il devint singulièrement intelligent, avec des goûts et des délicatesses natives que n'avaient point ses camarades, on le surnomma le bourgeois, et on ne l'appelait plus autrement. Il passait pour remarquablement adroit dans le métier de menuisier qu'il avait adopté. Il faisait même un peu de sculpture sur bois. On le disait aussi fort exalté, partisan des doctrines communistes et nihilistes, grand liseur de romans à drames sanglants, électeur influent et orateur habile dans les réunions publiques d'ouvriers ou de paysans. L'avocat avait plaidé la folie. Comment pouvait-on admettre en effet que cet ouvrier eût tué ses meilleurs clients, des clients riches et généreux, il les connaissait, qui lui avait fait faire depuis 2 ans pour 3 000 francs de travail. Ses livres en faisaient foi. Une seule explication se présentait. La folie, l'idée fixe du déclassé qui se venge sur 2 bourgeois de tous les bourgeois. Et l'avocat fit une allusion habile à ce surnom de « le bourgeois » donné par le pays à cet abandonné. Il s'écriait « N'est-ce pas une ironie, et une ironie capable d'exalter encore ce malheureux garçon qui n'a ni père ni mère? C'est un ardent républicain. Que dis-je? Il appartient même à ce parti politique que la République fusillait et déportait naguère, qu'elle accueille aujourd'hui à bras ouverts, à ce parti pour qui l'incendie est un principe et le meurtre un moyen tout simple. Ces tristes doctrines, acclamées maintenant dans les réunions publiques, ont perdu cet homme. Il a entendu des républicains, des femmes même, oui, des femmes, demander le sang de M. Gambetta, le sang de M. Grévy. Son esprit malade a chaviré. Il a voulu du sang de bourgeois. Ce n'est pas lui qu'il faut condamner, messieurs, c'est la commune. » Des murmures d'approbation coururent. On sentait bien que la cause était gagnée pour l'avocat. Le ministère public ne résista pas. Alors, le président posa au prévenu la question d'usage. « Accusé, n'avez-vous rien à ajouter à votre défense ?» L'homme se leva. Il était de petite taille, d'un blond de lin, avec des yeux gris, fixes et clairs. Une voix forte, franche et sonore sortait de ce frêle garçon et changeait brusquement, au premier mot, l'opinion qu'on s'était faite de lui. Il parla hautement, d'un ton déclamatoire, mais si net que ses moindres paroles se faisaient entendre jusqu'au fond de la grande salle. « Mon président, comme je ne veux pas aller dans une maison de fous et que je préfère même la guillotine, je vais tout vous dire. J'ai tué cet homme et cette femme parce qu'ils étaient mes parents. Maintenant, écoutez-moi et jugez-moi. » Une femme ayant accouché d'un fils l'envoya quelque part en nourrice. Sut-elle seulement en quel pays son complice porta le petit être innocent, mais condamné à la misère éternelle, à la honte d'une naissance illégitime, plus que cela, à la mort, puisqu'on l'abandonna, puisque la nourrice, ne recevant plus la pension mensuelle, pouvait, comme elles font souvent, le laisser dépérir, souffrir de faim, mourir de délaissement. La femme qui m'allaitait fut honnête, plus femme, plus grande, plus mère que ma mère. Elle m'éleva. Elle eut tort en faisant son devoir. Il vaut mieux laisser périr ces misérables jetés au village des banlieues comme on jette une ordure aux bornes. Je grandis avec l'impression vague que je portais un déshonneur. Les autres enfants m'appelèrent un jour « bâtard ». Ils ne savaient pas ce que signifiait ce mot, entendu par l'un d'eux chez ses parents. Je l'ignorais aussi, mais je le sentis. J'étais, je puis le dire, un des plus intelligents de l'école. J'aurais été un honnête homme, mon président, peut-être un homme supérieur, si mes parents n'avaient pas commis le crime de m'abandonner. Ce crime, c'est contre moi qu'ils l'ont commis. Je fus la victime, eux furent les coupables. J'étais sans défense, ils furent sans pitié. Ils devaient m'aimer, ils m'ont rejeté. Moi, je leur devais la vie. Mais la vie est-elle un présent? La mienne, en tout cas, n'était qu'un malheur. Après leur honteux abandon, je leur devais plus que la vengeance. Ils ont accompli contre moi l'acte le plus inhumain, le plus infâme, le plus monstrueux qu'on puisse accomplir contre un être. Un homme injurié frappe. Un homme volé reprend son bien par la force. Un homme trompé, joué, martyrisé, tue. Un homme souffleté, tue. Un homme déshonoré, tue. J'ai été plus volé, trompé, martyrisé, souffleté moralement, déshonoré que tous ceux dont vous absolvez la colère. Je me suis vengé, j'ai tué. C'était mon droit légitime. J'ai pris leur vie heureuse en échange de la vie horrible qu'ils m'avaient imposée. Vous allez parler de parricide. Étaient-ils mes parents, ces gens pour qui je fus un fardeau abominable, une terreur, une tâche d'infamie, pour qui ma naissance fut une calamité et ma vie une menace de honte? Ils cherchaient un plaisir égoïste, ils ont eu un enfant imprévu, ils ont supprimé l'enfant. Mon tour est venu d'en faire autant pour eux. Et pourtant, dernièrement encore, j'étais prêt à les aimer. Voici 2 ans, je vous l'ai dit, que l'homme, mon père, entra chez moi pour la première fois. Je ne soupçonnais rien. Il me commanda 2 meubles. Il avait pris, je le sus plus tard, des renseignements auprès du curé, sous le sceau du secret, bien entendu. Il revint souvent. Il me faisait travailler et payait bien. Parfois même, il causait un peu de choses et d'autres. Je me sentais de l'affection pour lui. Au commencement de cette année, il amena sa femme, ma mère. Quand elle entra, Elle tremblait si fort que je la crus atteinte d'une maladie nerveuse. Puis elle demanda un siège et un verre d'eau. Elle ne dit rien. Elle regarda mes meubles d'un air fou et elle ne répondait que oui et non, à tort et à travers, à toutes les questions qu'il lui posait. Quand elle fut partie, je la crus un peu toquée. Elle revint le mois suivant. Elle était calme, maîtresse d'elle. Ils restèrent, ce jour-là, assez longtemps à bavarder, et ils me firent une grosse commande. Je la revis encore trois fois sans rien deviner, mais un jour, voilà qu'elle se mit à me parler de ma vie, de mon enfance, de mes parents. Je répondis, « Mes parents, madame, étaient des misérables qui m'ont abandonné. » Alors, elle porta la main sur son cœur et tomba sans connaissance. Je pensai tout de suite, « C'est ma mère. » Mais je me gardai bien de laisser rien voir. Je voulais la regarder venir. Par exemple, je pris de mon côté mes renseignements. J'appris qu'ils n'étaient mariés que du mois de juillet précédent, ma mère n'étant devenue veuve que depuis trois ans. On avait bien chuchoté qu'ils s'étaient aimés du vivant du premier mari, mais on n'en avait aucune preuve. C'était moi la preuve qu'on avait cachée d'abord, espérée détruire ensuite. J'attendis. Elle reparut un soir, toujours accompagnée de mon père. Ce jour-là, elle semblait fort émue, je ne sais pourquoi. Puis au moment de s'en aller, elle me dit « Je vous veux du bien, parce que vous m'avez l'air d'un honnête garçon et d'un travailleur, vous penserez sans doute à vous marier quelques jours, je viens vous aider à choisir librement la femme qui vous conviendra. Moi, j'ai été mariée contre mon cœur une fois, et je sais comment on en souffre. Maintenant, je suis riche, sans enfant, libre, maîtresse de ma fortune. Voici votre dot. » Elle me tendit une grande enveloppe cachetée. Je la regardai fixement, puis je lui dis, « Vous êtes ma mère ?» Elle recula de trois pas et se cacha les yeux de la main pour ne plus me voir. Lui, l'homme, mon père, la soutint dans ses bras et il me cria, « Mais vous êtes fou !» Je répondis, « Pas du tout, je sais bien que vous êtes mes parents, on ne me trompe pas ainsi. Avouez-le et je vous garderai le secret, je ne vous en voudrai pas, je resterai ce que je suis, un menuisier. » Il reculait vers la sortie en soutenant toujours sa femme qui commençait à sangloter. Je courus fermer la porte, je mis la clé dans ma poche et je repris, « Regardez-la donc et niez encore qu'elle soit ma mère. » Alors il s'emporta, devenu très pâle, épouvanté par la pensée que le scandale évité jusqu'ici pouvait éclater soudain, que leur situation, leur renom, leur honneur seraient perdus d'un seul coup, il balbutia. « Vous êtes une canaille qui voulait nous tirer de l'argent. Faites donc du bien au peuple, à ces manants-là, aidez-les, secourez-les. » Ma mère éperdue répétait coup sur coup, « Allons-nous-en, allons-nous-en. » Alors, comme la porte était fermée, il cria, « Si vous ne m'ouvrez pas tout de suite, je vous fais flanquer en prison pour chantage et violence. » J'étais resté maître de moi. J'ouvris la porte et je les vis s'enfoncer dans l'ombre. Alors, il me sembla tout à coup que je venais d'être fait orphelin, d'être abandonné, poussé au ruisseau. Une tristesse épouvantable, mêlée de colère, de haine, de dégoût m'envahit. J'avais comme un soulèvement de tout mon être, un soulèvement de la justice, de la droiture, de l'honneur, de l'affection rejetée. Je me mis à courir pour les rejoindre le long de la Seine qu'il leur fallait suivre pour gagner la gare de Chatou. Je les rattrapai bientôt. La nuit était venue toute noire. J'allais à pas de loup sur l'herbe, de sorte qu'ils ne m'entendirent pas. Ma mère pleurait toujours. Mon père disait, « C'est votre faute. Pourquoi avez-vous tenu à le voir? C'était une folie dans notre position. On aurait pu lui faire du bien de loin sans se montrer. Puisque nous ne pouvons le reconnaître, à quoi servaient ces visites dangereuses ?» Alors, je m'élançais devant eux, suppliant. Je balbutiais, « Vous voyez bien que vous êtes mes parents. Vous m'avez déjà rejeté une fois. Me repousserez-vous encore ? » Alors, mon président, il leva la main sur moi, je vous le jure, sur l'honneur, sur la loi, sur la République. Il me frappa, et comme je le saisissais au collet, il tira de sa poche un revolver. J'ai vu rouge, je ne sais plus, j'avais mon compas dans ma poche, je l'ai frappé, frappé, tant que j'ai pu. Alors elle s'est mise à crier « Au secours, à l'assassin !» en m'arrachant la barbe. Il paraît que je l'ai tué aussi. Est-ce que je sais, moi, ce que j'ai fait à ce moment-là? Puis, quand je les ai vus tous les deux par terre, je les ai jetés à la Seine sans réfléchir. Voilà. Maintenant, jugez-moi. L'accusé se rassit. Devant cette révélation, l'affaire a été reportée à la session suivante. Elle passera bientôt. Si nous étions jurés, que ferions-nous de ce parricide? Fin de Un parricide. Le rendez-vous de Boule de Suif. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Didier. Le rendez-vous de Guy de Maupassant. Son chapeau sur la tête, son manteau sur le dos, un voile noir sur le nez, un autre dans sa poche dont elle doublerait le premier quand elle serait montée dans le fiacre coupable, elle battait du bout de son ombrelle la pointe de sa bottine et demeurait assise dans sa chambre, ne pouvant se décider à sortir pour aller à ce rendez-vous. Combien de fois pourtant, depuis 2 ans, elle s'était habillée ainsi, pendant les heures de bourse de son mari, un agent de change très mondain, pour rejoindre dans son logis de garçon le beau vicomte de Martelet, son amant. La pendule derrière son dos battait les secondes vivement. Un livre à moitié lu bâillait sur le petit bureau de bois de rose entre les fenêtres et un fort parfum de violette exhalé par 2 petits bouquets baignant 2 mignons vases de Saxe sur la cheminée se mêlait à une vague odeur de verveine soufflée sournoisement par la porte du cabinet de toilette demeurée entr'ouverte. L'heure sonna, 3 heures. Et la mit debout. Elle se retourna pour regarder le cadran, puis sourit, songeant « Il m'attend déjà, il va s'énerver. » Alors, elle sortit, prévint le valet de chambre qu'elle serait rentrée dans 1 heure au plus tard, un mensonge, descendit l'escalier et s'aventura dans la rue, à pied. On était au dernier jour de mai, à cette saison délicieuse où le printemps de la campagne semble faire le siège de Paris et le conquérir par-dessus les toits, envahir les maisons à travers les murs, faire fleurir la ville, y répandre une gaieté sur la pierre des façades, l'asphalte des trottoirs et le pavé des chaussées, la baigner, la griser de sève comme un bois qui verdit. Madame Hagan fit quelques pas à droite avec l'intention de suivre, comme toujours, la rue de Provence où elle hélerait un fiacre, mais la douceur de l'air, cette émotion de l'été qui nous entre dans la gorge en certains jours, la pénétra si brusquement que, changeant d'idée, elle prit la rue de la Chaussée-d'Antin, sans savoir pourquoi, obscurément attirée par le désir de voir des arbres dans le square de la Trinité. Elle pensait « Bah !» Il m'attendra 10 minutes de plus. » Cette idée, de nouveau, la réjouissait, et tout en marchant à petits pas, dans la foule, elle croyait le voir s'impatienter, regarder l'heure, ouvrir la fenêtre, écouter à la porte, s'asseoir quelques instants, se relever, et n'osant pas fumer, car elle le lui avait défendu les jours de rendez-vous, jeter sur la boîte aux cigarettes des regards désespérés. Elle allait doucement, distraite par tout ce qu'elle rencontrait, par les figures et les boutiques, ralentissant le pas de plus en plus et si peu désireuse d'arriver qu'elle cherchait, aux devantures, des prétextes pour s'arrêter. Au bout de la rue, devant l'église, la verdure du petit square l'attira si fortement qu'elle traversa la place, entra dans le jardin, cette cage à enfants, et fit 2 fois le tour de l'étroit gazon au milieu des nounous enrubannés, épanouis, bariolés, fleuris. Puis elle prit une chaise, s'assit, et levant les yeux vers le cadran rond comme une lune dans le clocher, elle regarda marcher l'aiguille. Juste à ce moment, la demie sonna, et son cœur tressaillit d'aise en entendant tinter les cloches du carillon. Une demi-heure de gagnée, plus un quart d'heure pour atteindre la rue Miromesnil, et quelques minutes encore de flânerie, une heure volée au rendez-vous. Elle y resterait 40 minutes à peine, et ce serait fini encore une fois. Dieu, comme ça l'ennuyait d'aller là-bas! Ainsi qu'un patient montant chez le dentiste, elle portait en son cœur le souvenir intolérable de tous les rendez-vous passés, un par semaine en moyenne depuis 2 ans, et la pensée qu'un autre allait avoir lieu tout à l'heure la crispait d'angoisse de la tête aux pieds. Non pas que ce fût bien douloureux, douloureux comme une visite au dentiste, mais c'était si ennuyeux, si ennuyeux, si compliqué, si long, si pénible que tout, tout, même une opération, lui aurait paru préférable. Elle y allait pourtant, très lentement, à tout petits pas, en s'arrêtant, en s'asseyant, en flânant partout, mais elle y allait. Oh, elle aurait bien voulu manquer encore celui-là, mais elle avait fait poser ce pauvre vicomte 2 fois de suite le mois dernier, et elle n'osait point recommencer si tôt. Pourquoi y retournait-elle? Ah, pourquoi? Parce qu'elle en avait pris l'habitude et qu'elle n'avait aucune raison à donner à ce malheureux martelé quand il voudrait connaître ce pourquoi. Pourquoi avait-elle commencé? Pourquoi? Elle ne le savait plus. L'avait-elle aimé? C'était possible. Pas bien fort, mais un peu, voilà si longtemps. Il était bien, recherché, élégant, galant et représentait strictement, au premier coup d'œil, l'amant parfait d'une femme du monde. La cour avait duré 3 mois, temps normal, lutte honorable, résistance suffisante, puis elle avait consenti, avec quelle émotion, quelle crispation, quelle peur horrible et charmante à ce premier rendez-vous, suivi de tant d'autres, dans ce petit entresol de garçon, rue de Miromesnil. Son cœur, qu'éprouvait alors son petit cœur de femme séduite, vaincue, conquise, en passant pour la première fois la porte de cette maison de cauchemar. Vrai, elle ne le savait plus. Elle l'avait oublié. On se souvient d'un fait, d'une date, d'une chose, mais on ne se souvient guère, 2 ans plus tard, d'une émotion qui s'est envolée très vite, parce qu'elle était très légère. Oh, par exemple, elle n'avait pas oublié les autres, ce chapelet de rendez-vous, ce chemin de la croix de l'amour, aux stations si fatigantes, si monotones, si pareilles, que la nausée lui montait aux lèvres en prévision de ce que ce serait tout à l'heure. Dieu, ces fiacres qu'il fallait appeler pour aller là, ils ne ressemblaient pas aux autres fiacres dont on se sert pour les courses ordinaires. Certes, les cochers devinaient. Elle le sentait rien qu'à la façon dont il la regardait, et ses yeux de cocher de Paris sont terribles. Quand on songe qu'à tout moment, devant le tribunal, ils reconnaissent, au bout de plusieurs années, des criminels qu'ils ont conduits une seule fois en pleine nuit, d'une rue quelconque à une gare, et qu'ils ont affaire à presque autant de voyageurs qu'il y a d'heures dans la journée, et que leur mémoire est assez sûre pour qu'ils affirment « Voilà bien l'homme que j'ai chargé rue des Martyrs et déposé gare de Lyon à 00h40 le 10 juillet de l'an dernier. » N'y a-t-il pas de quoi frémir lorsqu'on risque ce que risque une jeune femme allant à rendez-vous en confiant sa réputation au premier venu de ses cochers? Depuis 2 ans, elle en avait employé, pour ce voyage de la rue Miromesnil, au moins 100 à 120, en comptant un par semaine. C'était autant de témoins qui pouvaient déposer contre elle dans un moment critique. Aussitôt dans le fiacre, elle tirait de sa poche l'autre voile, épais et noir comme un loup, et se l'appliquait sur les yeux. Cela cachait le visage, oui, mais le reste, la robe, le chapeau, l'ombrelle, ne pouvait-on pas les remarquer, les avoir vus déjà? Oh, dans cette rue de Miromesnil, quel supplice! Elle croyait reconnaître les passants, tous les domestiques, tout le monde. À peine la voiture arrêtée, elle sautait et passait en courant devant le concierge, toujours debout sur le seuil de sa loge. En voilà un qui devait tout savoir, tout, son adresse, son nom, la profession de son mari, tout, car ses concierges sont les plus subtils des policiers. Depuis 2 ans, elle voulait l'acheter, lui donner, lui jeter un jour ou l'autre un billet de 100 francs en passant devant lui. Pas une fois, elle n'avait osé faire ce petit mouvement de lui lancer aux pieds ce bout de papier roulé. Elle avait peur. De quoi? Elle ne savait pas. D'être rappelée s'il ne comprenait point? D'un scandale? D'un rassemblement dans l'escalier? D'une arrestation, peut-être? Pour arriver à la porte du vicomte, il n'y avait guère qu'un demi-étage à monter et il lui paraissait haut comme la tour Saint-Jacques. À peine engagée dans le vestibule, elle se sentait prise dans une trappe et le moindre bruit devant ou derrière elle lui donnait une suffocation. Impossible de reculer avec ce concierge et la rue qui lui fermait la retraite. Et si quelqu'un descendait juste à ce moment, elle n'osait pas sonner chez Martelet et passait devant la porte comme si elle allait ailleurs. Elle montait, montait, montait. Elle aurait monté 40 étages. Puis, quand tout semblait redevenu tranquille dans la cage de l'escalier, elle redescendait en courant avec l'angoisse dans l'âme de ne pas reconnaître l'entresol. Il était là, attendant dans un costume galant en velours doublé de soie, très coquet, mais un peu ridicule, et depuis 2 ans, il n'avait rien changé à sa manière de l'accueillir, mais rien, pas un geste. Dès qu'il avait refermé la porte, il lui disait « Laissez-moi baiser vos mains, ma chère, chère amie. » Puis il la suivait dans la chambre, où vol éclos et lumières allumées, hiver comme été, par chic sans doute, il s'agenouillait devant elle en la regardant de bas en haut avec un air d'adoration. Le premier jour, ça avait été très gentil, très réussi, ce mouvement-là. Maintenant, elle croyait voir M. Delaunay jouant pour la 120e fois le 5e acte d'une pièce à succès. Il fallait changer ses effets. Et puis après, oh mon Dieu, après, c'était le plus dur. Non, il ne changeait pas ses effets, le pauvre garçon. Quel bon garçon, mais banal. Dieu, que c'était difficile de se déshabiller sans femme de chambre. Pour une fois, passe encore. Mais toutes les semaines, cela devenait odieux. Non, vrai, un homme ne devrait pas exiger d'une femme une pareille corvée. Mais s'il était difficile de se déshabiller, se rhabiller devenait presque impossible et énervant à crier, exaspérant à gifler le monsieur qui disait, tournant autour d'elle d'un air gauche, « Voulez-vous que je vous aide ?» L'aider, ah oui, à quoi? De quoi était-il capable? Il suffisait de lui voir une épingle entre les doigts pour le savoir. C'est à ce moment-là, peut-être, qu'elle avait commencé à le prendre en grippe. Quand il disait « Voulez-vous que je vous aide ?» elle l'aurait tué. Et puis, était-il possible qu'une femme ne finît point par détester un homme qui, depuis 2 ans, l'avait forcé plus de 120 fois à se rhabiller sans femme de chambre? Certes, il n'y avait pas beaucoup d'hommes aussi maladroits que lui, aussi peu dégourdis, aussi monotones. Ce n'était pas le beau baron de Grimbal qui aurait demandé de cet air niais « Voulez-vous que je vous aide ?» Il aurait aidé, lui, si vif, si drôle, si spirituel, voilà. C'était un diplomate. Il avait couru le monde, rôdé partout, déshabillé, rhabillé sans doute des femmes vêtues, suivant toutes les modes de la terre, celui-là. L'horloge de l'église sonna les 3 quarts. Elle se dressa, regarda le cadran et se mit à rire en murmurant « Oh, doit-il être agité ?» Puis elle repartit d'une marche plus vive et sortit du square. Elle n'avait point fait 10 pas sur la place quand elle se trouva nez à nez avec un monsieur qui la salua profondément. « Tiens, vous, baron ? » dit-elle surprise. Elle venait justement de penser à lui. « Oui, madame. » Et il s'informa de sa santé, puis, après quelques vagues propos, il reprit. « Vous savez que vous êtes la seule, vous permettez que je dise de mes amis, n'est-ce pas, qui ne soit point encore venue visiter mes collections japonaises. Mais, mon cher baron, une femme ne peut aller ainsi chez un garçon. Comment, comment ? En voilà une erreur quand il s'agit de visiter une collection rare. En tout cas, elle ne peut y aller seule. Et pourquoi pas? Mais j'en ai reçu des multitudes de femmes seules, rien que pour ma galerie. J'en reçois tous les jours. Voulez-vous que je vous les nomme? Non, je ne le ferai point. Il faut être discret, même pour ce qui n'est pas coupable. En principe, il n'est inconvenant d'entrer chez un homme sérieux, connu, dans une certaine situation, que lorsqu'on y va pour une cause inavouable. Au fond, c'est assez juste ce que vous dites là.
Alors, vous venez voir ma collection?
Quand?
Mais tout de suite.
Impossible, je suis pressé.
Allons donc. Voilà une demi-heure que vous êtes assise dans le square.
Vous m'espionnez?
Je vous regardais.
Vrai, je suis pressé.
Je suis sûr que non. Avouez que vous n'êtes pas pressé.
Madame Hagan se mit à rire et avoua. Non, non, pas très.
Un fiacre passait à les toucher. Le petit baron cria « Cocher !»
et la voiture s'arrêta.
Puis, ouvrant la portière, « Montez, madame !»«
Mais baron, non, c'est impossible, je ne peux pas aujourd'hui. »«
Madame, ce que vous faites est imprudent, montez. On commence à nous regarder, vous allez former un attroupement, on va croire que je vous enlève et nous arrêter tous les deux. Montez, je vous en prie. »
Elle monta, effarée, abasourdie.
Alors, il s'assit auprès d'elle en disant au cocher « Rue de Provence !»
Mais soudain, elle s'écria « Oh mon Dieu, j'oubliais une dépêche très pressée. Voulez-vous me conduire d'abord au premier bureau télégraphique ?»
Le fiacre s'arrêta un peu plus loin, rue de Châteaudun, et elle dit au baron « Pouvez-vous me prendre une carte de 50 centimes ? J'ai promis à mon mari d'inviter Martelet à dîner pour mardi et j'ai oublié complètement. »
Quand le baron fut revenu, sa carte bleue à la main, elle écrivit au crayon. « Mon cher ami, je suis très souffrante. J'ai une névralgie atroce qui me tient au lit. Impossible sortir. Venez dîner demain soir pour que je me fasse pardonner. Jeanne. »
Elle mouilla la colle, ferma soigneusement, mit l'adresse. « Vicomte de Martelet, 240, rue Miroménil. » Puis, rendant la carte au baron,
« Maintenant, voulez-vous avoir la complaisance de jeter ceci dans la boîte au télégramme ?»
Fin de Le rendez-vous.
Bombard de boules de suif. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Naf Brusa. Boule de suif de Guy de Maupassant. Bombard. Simon Bombard la trouvait souvent mauvaise, la vie. Il était né avec une incroyable aptitude pour ne rien faire et avec un désir immodéré pour ne point contrarier cette vocation. Tout effort moral ou physique, tout mouvement accompli pour une besogne lui paraissait au-dessus de ses forces. Aussitôt qu'il entendait parler d'une affaire sérieuse, il devenait distrait, son esprit étant incapable d'une tension ou même d'une attention. Fils d'un marchand de nouveautés de Caen, il se l'était coulé douce, comme on disait dans sa famille, jusqu'à l'âge de 25 ans. Mais ses parents demeurant toujours plus près de la faillite que de la fortune, il souffrait horriblement de la pénurie d'argent. Grand, gros, beau gars avec des favoris roux à la normande, le teint fleuri, l'œil bleu, bête et gai, le ventre apparent, déjà, il s'habillait avec une élégance tapageuse de provincial en fait. Il riait, criait, gesticulait à tout propos, étalant sa bonne humeur orageuse avec une assurance de commis-voyageur. Il considérait que la vie était faite uniquement pour bambocher et plaisanter, et sitôt qu'il fallait mettre un frein à sa joie braillarde, il tombait dans une sorte de somnolence hébétée, étant même incapable de tristesse. Ses besoins d'argent le harcelant, il avait coutume de répéter une phrase devenue célèbre dans son entourage. « Pour 10 000 francs de rente, je me ferai bourreau. » Or, il allait chaque année passer 15 jours à Trouville. Il appelait ça faire sa saison. Il s'installait chez des cousins qui lui prêtaient une chambre, et du jour de son arrivée au jour du départ, il se promenait sur les planches qui longent la grande plage de sable. Il allait d'un pas assuré, les mains dans ses poches ou derrière le dos. Toujours vêtu d'amples habits, de gilets clairs et de cravates voyantes, le chapeau sur l'oreille et un cigare d'un sou au coin de la bouche. Il allait, frôlant les femmes élégantes, toisant les hommes en gaillard prêts à se flanquer une tripotée et cherchant, cherchant, car il cherchait. Il cherchait une femme, comptant sur sa figure, sur son physique. Il s'était dit « Que diable, dans le tas de celles qui viennent là, je finirai bien par trouver mon affaire !» Et il cherchait avec un flair de chien de chasse, un flair de normand, sûr qu'il la reconnaîtrait rien qu'en l'apercevant, celle qui le ferait riche. Ce fut un lundi matin qu'il murmura « Tiens, tiens, tiens !» Il faisait un temps superbe, un de ces temps jaunes et bleus du mois de juillet où on dirait qu'il pleut de la chaleur. La vaste plage couverte de monde, de toilettes, de couleurs avait l'air d'un jardin de femmes, et les barques de pêche aux voiles brunes, presque immobiles sur l'eau bleue qui les reflétait la tête en bas, semblaient dormir sous le grand soleil de 10 heures. Elles restaient là, en face de la jetée de bois, les unes tout près, d'autres plus loin, d'autres très loin, sans remuer, comme accablées par une paresse de jour d'été, trop nonchalantes pour gagner la haute mer ou même pour rentrer au port. Et là-bas, on apercevait vaguement dans la brume la côte du Havre portant à son sommet 2 points blancs, les phares de Sainte-Adresse. Il s'était dit « Tiens, tiens, tiens !» en la rencontrant pour la 3e fois et en sentant sur lui son regard de femme mûre, expérimentée et hardie qui s'offre. Déjà, il l'avait remarquée les jours précédents, car elle semblait aussi en quête de quelqu'un. C'était une Anglaise assez grande, un peu maigre, l'Anglaise audacieuse dont les voyages et les circonstances ont fait une espèce d'homme. Pas mal, d'ailleurs. Marchant sec, d'un pas court, vêtue simplement, sobrement, mais coiffée d'une façon drôle, comme elles se coiffent toutes. Elle avait les yeux assez beaux, les pommettes saillantes, un peu rouges, les dents trop longues, toujours au vent. Quand il arriva près du port, il revint sur ses pas pour voir s'il la rencontrerait encore une fois. Il la rencontra et lui jeta un coup d'œil enflammé, un coup d'œil qui disait « Me voilà ». Mais comment lui parler? Il revint une 5e fois et comme il la voyait de nouveau arriver en face de lui, elle laissa tomber son ombrelle. Il s'élança, la ramassa et, la présentant, « Permettez, madame !» Elle répondit « Oh, vous êtes full gracious !» Et ils se regardèrent. Ils ne savaient plus que dire. Elle avait rougi. Alors, s'enhardissant, il prononça « En voilà un beau temps !» Elle murmura « Oh, delicious !» Et ils restèrent encore en face l'un de l'autre, embarrassés et ne songeant d'ailleurs à s'en aller ni l'un ni l'autre. Ce fut elle qui eut l'audace de demander « Vous étiez pour longtemps dans cet pays ?» Il répondit en souriant « Oh oui, tant que je voudrais !» Puis, brusquement, il proposa « Voulez-vous venir jusqu'à la jetée? C'est si joli par ces jours-là. » Elle dit simplement « Je voulais bien. » Et ils s'en allèrent côte à côte, elle de son allure sèche et droite, lui de son allure balancée de dindon qui fait la roue. 3 mois plus tard, les notables commerçants de Caen recevaient un matin une grande lettre blanche qui disait « Monsieur et Madame Prosper Bombard ont l'honneur de vous faire part du mariage de Monsieur Simon Bombard, leur fils, avec Madame Veuve Kate Robertson. Et sur l'autre page, Madame Veuve Kate Robertson a l'honneur de vous faire part de son mariage avec Monsieur Simon Bombard. Ils s'installèrent à Paris. La fortune de la mariée s'élevait à 15 000 francs de rente bien claire. Simon voulait 400 francs par mois pour sa cassette personnelle. Il lui prouvait que sa tendresse méritait ce sacrifice. Il le prouva avec facilité et obtint ce qu'il demandait. Dans les premiers temps, tout alla bien. Madame Bombard jeune n'était plus jeune, assurément, et sa fraîcheur avait subi des atteintes. Mais elle avait une manière d'exiger les choses qui faisait qu'on ne pouvait les lui refuser. Elle disait avec son accent anglais, volontaire et grave « Oh, Simon, ne allons ne coucher !» qui faisait aller Simon vers le lit comme un chien à qui on ordonne à la niche. Et elle savait vouloir en tout, de jour comme de nuit, d'une façon qui forçait les résistances. Elle ne se fâchait pas. Elle ne faisait point de scène, elle ne criait jamais, elle n'avait jamais l'air irritée ou blessée ou même froissée. Elle savait parler, voilà tout, et elle parlait à propos, d'un ton qui n'admettait point de réplique. Plus d'une fois, Simon faillit hésiter, mais devant les désirs impérieux et brefs de cette singulière femme, il finissait toujours par céder. Cependant, comme il trouvait monotones et maigres les baisers conjugaux, et comme il avait en poche de quoi s'en offrir de plus gros, il s'en paya bientôt à satiété, mais avec 1000 précautions. Madame Bombard s'en aperçut, sans qu'il devinât à quoi, et elle lui annonça un soir qu'elle avait loué une maison à Nantes où ils habiteraient dans l'avenir. L'existence devint plus dure. Il essaya des distractions diverses qui n'arrivaient point à compenser le besoin de conquête féminine qu'il avait au cœur. Il pêcha à la ligne, sut distinguer les fonds qu'aime le goujon, ceux que préfère la carpe ou le gardon, les rives favorites de la brème et les diverses amorces qui tentent les divers poissons. Mais en regardant son flotteur trembloter au fil de l'eau, d'autres visions hantaient son esprit. Il devint l'ami du chef de bureau de la sous-préfecture et du capitaine de gendarmerie, et ils jouèrent au whist, le soir, au café du commerce. Mais son œil triste déshabillait la reine de trèfle ou la dame de carreau, tandis que le problème des jambes absentes dans ses figures à deux têtes embrouillait tout à fait les images écloses dans sa pensée. Alors il conçut un plan, un vrai plan de Normand rusé. Il fit prendre à sa femme une bonne qui lui convenait, non point une belle fille, une coquette, une parée, mais une gaillarde, rouge et râblée, qui n'éveillerait point de soupçons et qu'il avait préparée avec soin à ses projets. Elle leur fut donnée en confiance par le directeur de l'octroi, un ami complice et complaisant qui la garantissait sous tous les rapports. Et Madame Bombard accepta avec confiance le trésor qu'on lui présentait. Simon fut heureux, heureux avec précaution, avec crainte et avec des difficultés incroyables. Il ne dérobait à la surveillance inquiète de sa femme que de très courts instants par-ci par-là, sans tranquillité. Il cherchait un truc, un stratagème, et il finit par en trouver un qui réussit parfaitement. Madame Bombard, qui n'avait rien à faire, se couchait tôt, tandis que Bombard, qui jouait au whist au café du commerce, rentrait chaque jour à 9h30 précise. Il imagina de faire attendre Victorine dans le couloir de sa maison sur les marches du vestibule, dans l'obscurité. Il avait 5 minutes, au plus, car il redoutait toujours une surprise. Mais enfin, 5 minutes de temps en temps suffisaient à son ardeur, et il glissait un louis, car il était large en ses plaisirs, dans la main de la servante qui remontait bien vite à son grenier. Et il riait, il triomphait tout seul, il répétait tout haut comme le barbier du roi Midas dans les roseaux du fleuve en pêchant la blette, « Fichu dedans, la patronne !» Et le bonheur de ficher dedans Madame Bombard équivalait certes pour lui à tout ce qu'avait d'imparfait et d'incomplet sa conquête à gage. Or un soir, il trouva comme d'habitude Victorine l'attendant sur les marches, mais elle lui parut plus vive, plus animée que d'habitude, et il demeura peut-être 10 minutes au rendez-vous du corridor. Quand il entra dans la chambre conjugale, Madame Bombard n'y était pas. Il sentit un grand frisson froid qui lui courait dans le dos et il tomba sur une chaise torturée d'angoisse. Elle apparut, un bougeoir à la main. Il demanda tremblant « Tu t'es sortie ?» Elle répondit tranquillement « J'ai été dans la cuisine boire un verre d'eau. » Il s'efforça de calmer les soupçons qu'elle pouvait avoir, mais elle semblait tranquille, heureuse, confiante, et il se rassura. Quand ils pénétrèrent le lendemain dans la salle à manger pour déjeuner, Victorine mit sur la table les côtelettes. Comme elle se relevait, Madame Bombard lui tendit un louis, qu'elle tenait délicatement entre deux doigts, et lui dit avec son accent calme et sérieux « Tenez, ma fille, voilà 20 francs dont j'avais privé vous hier au soir. Je vous les rendrai. » Et la fille interdite prit la pièce d'or qu'elle regardait d'un air stupide, tandis que Bombard, effaré, ouvrait sur sa femme des yeux énormes. Fin de Bombard.
Le pain maudit de Boule de Suif. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christian. Boule de Suif de Guy de Maupassant. Le pain maudit. 1. Le père Taille avait 3 filles. Anna, l'aînée, dont on ne parlait guère dans la famille, Rose, la cadette, âgée maintenant de 18 ans, et Claire, la dernière, encore gosse, qui venait de prendre son 15e printemps. Le père Taille, veuf aujourd'hui, était maître mécanicien dans la fabrique de boutons de M. Le Brumand. C'était un brave homme, très considéré, très droit, très sobre, une sorte d'ouvrier modèle. Il habitait rue d'Angoulême, au Havre. Quand Anna avait pris la clé des champs, comme on dit, le vieux était entré dans une colère épouvantable. Il avait menacé de tuer le séducteur, un blanc-bec, un chef de rayon d'un grand magasin de nouveautés de la ville. Puis, on lui avait dit de divers côtés que la petite se rangeait, qu'elle mettait de l'argent sur l'État, qu'elle ne courait pas, liée maintenant avec un homme d'âge, un juge au tribunal de commerce, M. Dubois. Et le père s'était calmé. Il s'inquiétait même de ce qu'elle faisait, demandait des renseignements sur sa maison à ses anciennes camarades qui avaient été la revoir. Et quand on lui affirmait qu'elle était dans ses meubles et qu'elle avait un tas de vases de couleurs sur ses cheminées, des tableaux peints sur les murs, des pendules dorées et des tapis partout, un petit sourire content lui glissait sur les lèvres. Depuis 30 ans, il travaillait, lui, pour amasser 5 ou 6 pauvres 1000 francs. La fillette n'était pas bête, après tout. Or, voilà qu'un matin, le fils Touchard, dont le père était tonnelier au bout de la rue, vint lui demander la main de Rose la seconde. Le cœur du vieux se mit à battre. Les Touchard étaient riches et bien posés. Il avait décidément de la chance dans ses filles. La noce fut décidée, et on résolut qu'on la ferait d'importance. Elle aurait lieu à Sainte-Adresse, au restaurant de la mère Jusa. Cela coûterait bon, par exemple. Ma foi, tant pis, une fois n'était pas coutume. Mais un matin, comme le vieux était rentré au logis pour déjeuner, au moment où il se mettait à table avec ses deux filles, la porte s'ouvrit brusquement et Anna parut. Elle avait une toilette brillante et des bagues et un chapeau à plumes. Elle était gentille comme un cœur avec tout ça. Elle sauta au cou du père, qui n'eut pas le temps de dire « ouf », puis elle tomba en pleurant dans les bras de ses deux sœurs, puis elle s'assit en s'essuyant les yeux et demanda une assiette pour manger la soupe avec la famille. Cette fois, le père Taille fut attendri jusqu'aux larmes à son tour. Il répéta plusieurs reprises « C'est bien, ça, petite, c'est bien, c'est bien. » Elle dit tout de suite son affaire. Elle ne voulait pas qu'on fît la noce de Rose à Sainte-Adresse. Elle ne voulait pas... Ah, mais non! On la ferait chez elle, donc, cette noce, et ça ne coûterait rien au père. Ses dispositions étaient prises, tout arrangé, tout réglé. Elle se chargeait de tout. Voilà. Le vieux répéta. « Ça, c'est bien, petite, c'est bien. » Mais un scrupule lui vint. Les Touchard consentiraient-ils? Rose, la fiancée, surprise, demanda. « Pourquoi qu'ils ne voudraient pas, donc? Laisse faire, je m'en charge. Je vais en parler à Philippe, moi. » Elle en parla à son prétendu, en effet, le jour même, et Philippe déclara que ça lui allait parfaitement. Le père et la mère Touchard furent aussi ravis de faire un bon dîner qui ne coûterait rien. Et ils disaient, « Ce sera bien, pour sûr, vu que M. Dubois roule sur l'or. » Alors, ils demandèrent la permission d'inviter une amie, Mademoiselle Florence, la cuisinière des gens du premier. Anna consentit à tout. Le mariage était fixé au dernier mardi du mois. 2. Après la formalité de la mairie et la cérémonie religieuse, la noce se dirigea vers la maison d'Anna. Les Tailles avaient amené, de leur côté, un cousin d'âge, M. Sauvetanet, homme à réflexion philosophique, cérémonieux et compensé, dont on attendait l'héritage, et une vieille tante, Madame Lamondois. M. Sauvetanet avait été désigné pour offrir son bras à Anna. On les avait accouplés, le jugeant les deux personnes les plus importantes et les plus distinguées de la société. Dès qu'on arriva devant la porte d'Anna, elle quitta immédiatement son cavalier et courut en avant en déclarant « Je vais vous montrer le chemin. » Elle monta en courant l'escalier, tandis que la procession des invités suivait plus lentement. Dès que la jeune fille eut ouvert son logis, elle se rangea pour laisser passer le monde qui défilait devant elle en roulant de grands yeux et en tournant la tête de tous les côtés pour voir ce luxe mystérieux. La table était mise dans le salon, la salle à manger ayant été jugée trop petite. Le restaurateur voisin avait loué les couverts et les carafes pleines de vin, luisait sous un rayon de soleil qui tombait d'une fenêtre. Les dames pénétrèrent dans la chambre à coucher pour se débarrasser de leurs châles et de leurs coiffures, et le père Touchard, debout sur la porte, clignait de l'œil vers le lit bas et large et faisait aux hommes des petits signes farceurs et bienveillants. Le père Taille, très digne, regardait avec un orgueil intime l'ameublement somptueux de son enfant, et il allait de pièce en pièce, tenant toujours à la main son chapeau, inventoriant les objets d'un regard, marchant à la façon d'un sacristain dans une église. Anna allait, venait, courait, donnait des ordres, hâtait le pas. Enfin, elle apparut sur le seuil de la salle à manger démeublée en criant « Venez tous par ici une minute !» Les 12 invités se précipitèrent et aperçurent 12 verres de madère en couronne sur un guéridon. Rose et son mari se tenaient par la taille, s'embrassaient déjà dans les coins. M. Sauvetanin ne quittait pas Anna de l'œil, poursuivi sans doute par cette ardeur, par cette attente qui remue les hommes, même vieux et laids, auprès des femmes galantes, comme si elles devaient par métier, par obligation professionnelle, un peu d'elles à tous les mâles. Puis on se mit à table, et le repas commença. Les parents occupaient un bout, les jeunes gens tout l'autre bout. Madame Touchard, la mère, présidait à droite, la jeune mariée présidait à gauche. Anna s'occupait de tous et de chacun, veillait à ce que les verres fussent toujours pleins et les assiettes toujours garnies. Une certaine gêne respectueuse, une certaine intimidation devant la richesse du logis et la solennité du service, paralysaient les convives. On mangeait bien, on mangeait bon, mais on ne rigolait pas comme on doit rigoler dans les noces. On se sentait dans une atmosphère trop distinguée. Cela gênait. Madame Touchard, la mère, qui aimait rire, tâchait d'animer la situation. Et, comme on arrivait au dessert, elle cria « Dis donc, Philippe, chante-nous quelque chose !» Son fils passait dans sa rue pour posséder une des plus jolies voix du Havre. Le marié aussitôt se leva, sourit, et se tournant vers sa belle-sœur, par politesse et par galanterie, il chercha quelque chose de circonstance, de grave, de comme il faut, qu'il jugeait en harmonie avec le sérieux du dîner. Anna prit un air content et se renversa sous sa chaise pour écouter. Tous les visages devinrent attentifs et vaguement souriants. Le chanteur annonça « Le pain maudit !» et, arrondissant le bras droit, ce qui fit remonter son habit dans son cou, il commença. Il est un pain béni qu'à la terre économe, il nous faut arracher d'un bras victorieux. C'est le pain du travail, celui que l'honnête homme, le soir à ses enfants, apporte tout joyeux. Mais il en est un autre, Amine, tentatrice, pain maudit que l'enfer pour nous damner sema, pain maudit que l'enfer pour nous damner sema. Enfants, ne touchez pas, car c'est le pain du vice. Chers enfants, gardez-vous de toucher ce pain-là. Chers enfants, gardez-vous de toucher ce pain-là. » Toute la table applaudit avec frénésie. Le père Touchard déclara « Ça, c'est tapé !» La cuisinière invitée tourna dans sa main un croûton qu'elle regardait avec attendrissement. Monsieur Sauvetanet murmura « Très bien !» Et la tante Lamondois s'essuya déjà les yeux avec sa serviette. Le mari annonça « Deuxième couplet !» et le lança avec une énergie croissante. Respect aux malheureux qui, tout brisés par l'âge, nous implorent en passant sur le bord du chemin. Mais flétrissons celui qui, désertant l'ouvrage, alerte et bien pourtant, ose tendre la main. Mendier sans besoin, c'est voler la vieillesse. C'est voler l'ouvrier que le travail courba. C'est voler l'ouvrier que le travail courba. Honte à celui qui vit du pain de la paresse. Chers enfants, gardez-vous de toucher ce pain-là. Chers enfants, gardez-vous de toucher ce pain-là. » Tous, même les deux servants restés debout contre les murs, hurlèrent en chœur le refrain. Les voix fausses et pointues des femmes faisaient détonner les voix grasses des hommes. La tante et la mariée pleuraient tout à fait. Le père Taille se mouchait avec un bruit de trombone, et le père Touchard, affolé, brandissait un pain tout entier jusqu'au milieu de la table. La cuisinière amie laissait tomber des larmes muettes sous son crouton qu'elle tourmentait toujours. M. Sauve-Tanin prononça au milieu de l'émotion générale
« Voilà des choses saines, bien différentes des gaudrioles. »
Anna, troublée aussi, envoyait des baisers à sa sœur et lui montrait d'un signe amical son mari, comme pour la féliciter. Le jeune homme, grisé par le succès, reprit. Dans ton simple réduit, ouvrière gentille, tu sembles écouter la voix du tentateur. Pauvre enfant, va, crois-moi, ne quitte pas l'aiguille. Tes parents n'ont que toi, toi seul est leur bonheur. Dans ton luxe honteux, trouveras-tu des charmes? Lorsque, te maudissant, ton père expirera? Lorsque, te maudissant, ton père expirera? Le pain du déshonneur se pétrit dans les larmes. Chers enfants, gardez-vous de toucher ce pain-là. Chers enfants, gardez-vous de toucher ce pain-là. Seuls les deux servants et le père Touchard reprirent le refrain. Anna, toute pâle, avait baissé les yeux. Le marié, interdit, regardait autour de lui sans comprendre la cause de ce froid subit. La cuisinière avait soudain lâché son crouton comme s'il était devenu empoisonné. M. Sauve-Tanin déclara gravement pour sauver la situation
« Le dernier couplet est de trop. »
Le père Taille, rouge jusqu'aux oreilles, roulait des regards féroces autour de lui. Alors, Anna, qui avait les yeux pleins de larmes, dit au valet d'une voix mouillée, d'une voix de femme qui pleure,
« Apportez le champagne. »
Aussitôt, une joie secoua les invités. Les visages redevinrent radieux. Et comme le père Touchard, qui n'avait rien vu, rien senti, rien compris, brandissait toujours son pain et chantait tout seul en le montrant aux convives, « Chers enfants, gardez-vous de toucher ce pain-là !» Toute la noce, électrisée en voyant apparaître des bouteilles coiffées d'argent, reprit avec un bruit de tonnerre, « Chers enfants, gardez-vous de toucher ce pain-là !» Fin de « Le pain maudit ».
Les sabots, de Boule de Suif. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Boule de Suif, de Guy de Maupassant. Les sabots. Le vieux curé bredouillait les derniers mots de son sermon au-dessus des bonnets blancs des paysannes et des cheveux rudes ou pommadés des paysans. Les grands paniers des fermières venues de loin pour la messe étaient posés à terre à côté d'elle, et la lourde chaleur d'un jour de juillet dégageait de tout le monde une odeur de bétail, un fumet de troupeau. Les voix des coqs entraient par la grande porte ouverte, et aussi les meuglements des vaches couchées dans un champ voisin. Parfois, un souffle d'air chargé d'arômes des champs s'engouffrait sous le portail, et en soulevant sur son passage les longs rubans des coiffures, il allait faire vaciller sur l'autel les petites flammes jaunes au bout des cierges. « Comme le désire le bon Dieu. Ainsi soit-il, » prononçait le prêtre. Puis il se tut, ouvrit un livre, et se mit, comme chaque semaine, à recommander à ses ouailles les petites affaires intimes de la commune. C'était un vieux homme, à cheveux blancs, qui administra la paroisse depuis bientôt 40 ans, et le prône lui servait pour communiquer familièrement avec tout son monde. Il reprit. « Je recommande à vos prières Désiré Valin, qui est bien malade, et aussi la Paumelle, qui ne se remet pas vite de ses couches. » Il ne savait plus. Il cherchait des bouts de papier posés dans un bréviaire. Il en retrouva deux enfin, et continua. Il ne faut pas que les garçons et les filles viennent comme ça le soir dans le cimetière, ou bien je préviendrai le garde champêtre. Monsieur Césaire Aumont voudrait bien trouver une jeune fille honnête comme servante. Il réfléchit encore quelques secondes, puis ajouta. C'est tout, mes frères, c'est la grâce que je vous souhaite au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il descendit de la chaire pour terminer sa messe. Quand les Malandins furent entrés dans leur chaumière, la dernière du hameau de la Sablière, sur la route de Fourville, le père, un vieux petit paysan sec et ridé, s'assit devant la table, pendant que sa femme décrochait la marmite et que sa fille Adélaïde prenait dans le buffet les verres et les assiettes. Et il dit
« Ce serait peut-être bon, cette place chez Maître Aumont, vu que le veuf que ça brûle, aime pas, qu'il est seul et qu'il a de quoi. Je ferions peut-être bien d'y envoyer Adélaïde. »
La femme posa sur la table la marmite toute noire, enleva le couvercle, et pendant que montait au plafond une vapeur de soupe pleine d'odeur de choux, elle réfléchit. L'homme reprit.
« Il y a de quoi pour sûr, mais qu'il faudrait être dégourdi et qu'Adélaïde l'ait pas un brin. »
La femme alors articula.
« Je pourrais en voir tout de même. »
Puis, se tournant vers sa fille, une gaillarde à l'air niais, aux cheveux jaunes, aux grosses joues rouges, comme la peau des pommes, elle cria.
« T'entends, grande bête, t'iras chez Maître Aumont te proposer comme servante, et tu feras tout ce qui te le commandera. »
La fille se mit à rire sottement, sans répondre. Puis tous trois commencèrent à manger. Au bout de 10 minutes, le père reprit.
« Écoute un mot, la fille, et tâche de ne point te mettre en défaut sur ce que je vais te dire. »
Et il lui traça en termes lents et minutieux toute une règle de conduite, prévoyant les moindres détails, la préparant à cette conquête d'un vieux veuf mal avec sa famille. La mère avait cessé de manger pour écouter. Et elle demeurait, la fourchette à la main, les yeux, sur son homme et sur sa fille tour à tour, suivant cette instruction avec une attention concentrée et muette. Adélaïde restait inerte, le regard errant et vague, docile et stupide. Dès que le repas fut terminé, la mère lui fit mettre son bonnet, et elles partirent toutes deux pour aller trouver M. Césaire Aumont. Il habitait une sorte de petit pavillon de briques adossé au bâtiment d'exploitation qu'occupaient ses fermiers, car il s'était retiré du faire-valoir pour vivre de ses rentes. Il avait environ 55 ans. Il était gros, jovial et bourru, comme un homme riche. Il riait et criait à faire tomber les murs, buvait du cidre et de l'eau-de-vie à plein verre, et passait encore pour chaud malgré son âge. Il aimait se promener dans les champs, les mains derrière le dos, enfonçant ses sabots de bois dans la terre grasse, considérant la levée du blé ou la floraison des colzas d'un œil d'amateur à son aise, qui aime ça, mais qui ne se la foule plus. On disait de lui, c'est un père bon temps, qui n'est pas bien levé tous les jours. Il reçut les deux femmes, le ventre à table, achevant son café. Et se renversant, il demanda.
Qu'est-ce que vous désirez?
La mère prit la parole.
« C'est notre fille Adélaïde que je viens vous proposer pour servante, vu ce qu'a dit ce matin monsieur le curé. »
Maître Aumont considéra la fille. Puis, brusquement,
« Quel âge qu'elle a, ce grande bique-là? »«
21 ans à la Saint-Michel, monsieur Aumont. »«
C'est bien. Alors à 15 francs par mois et le fricot. Je l'attends demain pour faire ma soupe du matin. »
Et il congédia les deux femmes. Adélaïde entra en fonction le lendemain et se mit à travailler dur, sans dire un mot, comme elle faisait chez ses parents. Vers 9 heures, comme elle nettoyait les carreaux de la cuisine, M. Aumont la héla.
« Adélaïde !»
Elle l'accourut.
« Me v'là notre maître !»
Dès qu'elle fut en face de lui, les mains rouges et abandonnées, l'œil troublé, il déclara.
« Écoute un peu, qu'il n'y ait pas d'erreur entre nous. T'es ma servante, mais rien de plus. T'entends? Nous ne mêlerons point nos sabots. »«
Oui, notre maître. »
« Allons-y bien, va à ton ouvrage. »
Et elle alla reprendre sa besogne. À midi, elle servit le dîner du maître dans sa petite salle à papier peint, puis, quand la soupe fut sur la table, elle alla prévenir M. Aumont.
« C'est servi, notre maître. »
Il entra, s'assit, regarda autour de lui, déplia sa serviette, hésita une seconde, puis d'une voix de tonnerre,
« Adélaïde !»
Elle arriva, effaré. Il cria comme s'il allait la massacrer.
« Eh bien, nom de... Et t'es, où est-ce qui est ta place ?»«
Mais, notre maître... »
Il hurlait.
« J'aime pas manger tout seul, nom de... Tu vas te mettre là, ou bien foutre le camp si tu veux pas. Va chercher ton assiette et ton verre. »
Épouvanté,
Elle apporta son couvert en balbutiant. « Me v'là notre maître !» Et elle s'assit en face de lui. Alors il devint jovial. Il trinquait, tapait sur la table, racontait des histoires qu'elle écoutait les yeux baissés, sans oser prononcer un mot. De temps en temps, elle se levait pour aller chercher du pain, du cidre, des assiettes. En apportant le café, elle ne déposa qu'une tasse devant lui. Alors, repris de colère, il grogna.
« Eh bien, et pour t'es ?»«
Je n'en prends point, notre maître. »«
Pourquoi que tu n'en prends point ?»«
Parce que je l'aime point. » Alors il éclata de nouveau.
« J'aime pas prendre mon café tout seul, nom de d... »« Si tu ne veux pas t'en mettre à en prendre et tout, tu vas foutre le camp, nom de d... »« Va chercher une tasse, c'est plus vite que ça. »
Elle alla chercher une tasse, se rassit, goûta la noire liqueur, fit la grimace, mais sous l'œil furieux du maître, elle avala jusqu'au bout. Puis il fallut boire le premier verre d'eau-de-vie de la rincette, le second du pouce-rincette, et le troisième du coup de pied au cul, et M. Aumont la congédia.
« Va laver ta vaisselle maintenant, t'es une bonne fille. »
Il s'en fut de même au dîner. Puis elle dut faire sa partie de domino, puis il l'envoya se mettre au lit.
« Va te coucher, je monterai tout à l'heure. »
Et elle gagna sa chambre, une mansarde sous le toit. Elle fit sa prière, se dévêtit et se glissa dans ses draps. Mais soudain elle bondit, effarée. Un cri furieux faisait trembler la maison.
« Adélaïde !»
Elle ouvrit sa porte et répondit de son grenier.
« Me v'là, notre maître !»« Où est-ce que t'es ?»«
Mais je suis dans mon lit, donc, notre maître !» Alors il vociféra.
« Veux-tu bien descendre, nom de Dieu ? J'aime pas coucher tout seul, nom de Dieu ! Et si tu ne veux point, tu vas me foutre le camp, nom de Dieu !»
Alors, elle répondit d'en haut, éperdue, cherchant sa chandelle.
« Me v'là, notre maître !»
Et il entendit ses petits sabots découverts battre le sapin de l'escalier, et quand elle fut arrivée aux dernières marches, il la prit par le bras, et dès qu'elle eut laissé devant la porte ses étroites chaussures de bois à côté des grosses galoches du maître, il la poussa dans sa chambre en grognant.
« Plus vite que ça, nom de Dieu !»
Et elle répétait sans cesse, ne sachant plus ce qu'elle disait. « me v'là notre maître !» 6 mois après, comme elle allait voir ses parents un dimanche, son père l'examina curieusement, puis demanda.
« T'es-tu point grosse ?»
Elle restait stupide, regardant son ventre, répétant. « Mais non, je ne crois point. » Alors, il l'interrogea, voulant tout savoir.
« Dis-moi si vous n'aviez point, quelque soir, mêlé vos sabots. »«
Oui, je les ai mêlés le premier soir et puis les autres. »
« Mais t'es pleine, grande futaille !»
Elle se mit à sangloter, balbutiant.
« J'avais t'aimé !»
Le père Malandain la guettait, l'œil éveillé, la mine satisfaite. Il demanda.
« Qu'est-ce que tu ne savais pas ?»
Elle prononça, à travers ses pleurs.
« J'avais t'aimé que ça se faisait comme ça, des enfants !»
Sa mère rentrait. L'homme articula, sans colère.
« La v'là grosse, à cette heure. »
Mais la femme se fâcha, révoltée d'instinct, injuriant à pleine gueule à sa fille en larmes, la traitant de manante et de traînée. Alors le vieux la fit taire, et comme il prenait sa casquette pour causer de leurs affaires avec maître Césaire Aumont, il déclara.
« Elle est tout de même encore plus sotte que j'aurais cru. Elle ne savait point ce qu'elle faisait, cette néante. »
Au prône du dimanche suivant, le vieux curé publiait les bons de M. Onufre Césaire Aumont avec Céleste Adélaïde Malandain. Fin de Les Sabots.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com.